Bonjour mes bien-aimés, chers auditeurs, chères auditrices, que la grâce excellente en notre Seigneur Jésus vous inonde. Amen. Voilà, nous abordons aujourd'hui le troisième message, et c'est la suite du deuxième message sur Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse et ta joie. Ce message était assez long, donc il s'est fait en deux fois, donc ça c'est la suite de ce message-là. Nous allons continuer aujourd'hui avec ce que l'Esprit a enseigné sur la phase pratique du mécanisme de la joie. La dernière fois, nous avons étudié vraiment sur toutes ces facettes la signification des mots, le sens des mots et la pensée de Dieu, ce qui nous a révélé vraiment profondément la pensée de Dieu en ce qui concernait faire éclater l'allégresse, la joie. Nous avons perçu la quintessence même du sens de réjouis-toi et ça nous a vraiment bénis. Nous sommes vraiment intéressés de savoir ce que nous avons nous à faire pour pouvoir progresser, acquérir cette nature joyeuse. Nous allons l'étudier donc aujourd'hui. Père éternel, te bénissons et nous te rendons l'immense action de grâce. Tu es Dieu, ô Papa. Tu es le Mighty God. Tu es l'Éternel. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul Éternel, ô Père. Que toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous sommes vides. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Prends la place qui est la tienne. Emplis ton temple. Parle par ma bouche. Parle à ton peuple. Mets en eux la pensée de Dieu. Oui, prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce message pour la gloire de Dieu notre Père. Et que Jésus-Christ notre Seigneur soit glorifié. C'est en son nom que je t'adresse cette prière, Papa. Amen. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul donne beaucoup de recommandations. Parmi ces recommandations-là, ces recommandations où il dit c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Parmi ces recommandations, il y a une que nous connaissons tous qui est 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui est soyez toujours joyeux. Oh, oh. Il n'y a même pas de virgule, il n'y a même pas de point virgule. C'est point. Soyez toujours joyeux. Point. Je dis, mais, mon frère, ma soeur, comment on peut être toujours joyeux? Nous ne mentons pas. Même nous-mêmes, dans notre processus, même ceux qui sont les plus avancés, il y a des moments où la nature n'est pas joyeuse. Mais Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Maintenant que j'ai étudié l'allégresse, la joie, et ce verset 1 d'Isaïe 54, je comprends pourquoi Paul dit ça. Je comprends pourquoi Paul donne une instruction comme ça. Et je me dis, c'est une nécessité, mais il faut bien pouvoir y arriver. Quel est le mécanisme? Quelle est la procédure à suivre, cet esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais que par l'esprit de Dieu, on puise tout. Mais il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. Et lui, il va faire sa part. C'est un partenariat. Avec Dieu, c'est toujours un partenariat. Il y a ce que tu fais et ce que je fais. Et je dis, dans ces partenariats-là, si ça échoue, ce n'est jamais parce que Dieu lui a échoué. Parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Le maillon faible, c'est nous. C'est nous qui n'arrivons pas à faire notre part. Et ce que Dieu nous a promis reste en suspens comme ça. Je parle de nous, je ne parle pas de ce que les autres peuvent faire contre nous. Non, je parle de nous, ce que nous devons faire. Alléluia. Voilà ce que m'a enseigné. 1. Être toujours joyeux, ça ne se commande pas. Ce n'est pas parce que tu vas te lever un matin et tu vas dire désormais je serai toujours joyeux que la seconde d'après, ça sera vrai. C'est pas vrai. Ça ne se commande pas. Mais par contre, être toujours joyeux, ça se décide. Ça se décide. Tu te dis, j'ai compris ce que l'Éternel veut dire. J'ai compris ce que Paul veut me dire dans son instruction. J'ai saisi la profondeur de la pensée de Dieu en ce qui concerne la joie, l'allégresse et la réjouissance. Waouh! Je décide que je veux être joyeuse. Je décide que je veux avoir une nature joyeuse. C'est ta volonté, c'est bon. Tu prends conscience de quelque chose. Tu prends une décision ferme. Et maintenant, il faut passer en action. Tu prends une décision ferme. Pour que cette décision ait une vie, il faut agir. Il faut passer en action. Et l'action, c'est l'ensemble de ce que tu vas savoir sur la joie, de l'éducation que tu vas avoir, de l'entraînement que tu vas faire. Nous allons y revenir tout à l'heure.
dans le détail. C'est des choses, ce sont des actions concrètes que tu vas poser tous les jours, qui sont des actions physiques, etc. C'est ce que l'on appelle avoir de la science. Ça répond à des mécanismes, parce que nous sommes, c'est un corps. Et ce corps-là a une façon de fonctionner qu'il faut comprendre. Quand on dit, par exemple, non, ne reste pas assis, comme ça, va faire du sport. Quand tu vas faire du sport, tu vas produire de l'énergie. Et cette énergie va consommer les calories supplémentaires dans ton corps et tu ne vas pas prendre du poids. Mon frère, ma soeur, te laisser aller faire du sport, ça ne demande pas. Ce n'est pas l'étape de la prière, non. C'est l'étape physique d'action, d'agir. Nous allons y revenir sur l'éducation et l'entraînement qui est nécessaire pour que ta décision puisse prendre vie. 3, être toujours joyeux, ça se demande. Ça se demande dans un acte d'allégresse. Parce que nous voyons bien dans la parole, l'allégresse précède la joie. Nous avons découvert, moi j'ai découvert, et je voulais expliquer, que l'allégresse, rima, était un cri de supplication, un cri de proclamation, un cri de louange, un cri de triomphe. Oui, être toujours joyeux, ça se demande dans un acte d'allégresse. Ça veut dire que tu vas partir et être en supplication. Parce que tu as eu une volonté qui a conduit à une décision d'être toujours joyeux. On s'est dit, on va voir de ton point de vue ce que ça signifie en phase d'éducation et d'entraînement, de méthode, d'application. On va voir cela. Parallèlement à ça, ça se demande aussi, dans un acte d'allégresse. Tu dois être en supplication à Père, en Jésus-Christ, par l'Esprit-Saint. Tu dois proclamer, tu dois louer, dans le cadre de la joie et de l'allégresse. Parce que cette étape-là précède la naissance de la joie en toi. Alléluia. 4, être toujours joyeux, ça se supplie en prière. Ça se supplie en prière. Ça se désire profondément. Ça se quémande au Saint-Esprit. Oui, mes frères et mes sœurs, voilà les étapes. Mais c'est des étapes dans ce sens aussi. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Oui, mais pas l'étape 4. Tu te lèves maintenant, tu dis, je vais seulement prier pour être en joie. Et tu ne mets pas en application, ne serait-ce que la décision. Tu ne mets pas en application les préceptes, l'entraînement qu'il faut. Tu n'obtiendras pas de résultat. Nous allons entrer plus en profondeur de cette étude. Et vous allez comprendre. Donc voilà les 4 étapes. Oui, des 4 choses qu'il faut mettre en commun pour faire naître pour en toi la nature joyeuse. Quand tu décides d'être désormais joyeux, c'est que tu as décidé que désormais ton être va manifester ce que l'on appelle les signes extérieurs de la joie. C'est un ensemble de choses, d'expressions de joie, d'expressions qui caractérisent la joie. Des choses visibles de l'extérieur, palpables sur toi-même, en toi, visibles. Ce sont des signes extérieurs de joie. C'est pour ça qu'en quelque sorte, souvent on a 2 personnes. Peut-être l'un-même, il a le visage fermé, il dit jamais rien, il est machin, etc. Alors que dans son cœur, peut-être c'est quelqu'un qui vraiment, il n'est pas fâché. Mais ce qu'on va voir de l'extérieur, on va dire, il est fâché, il est triste. Alors qu'il y en a qui, dans l'hypocrisie, sont rieurs tout le temps, qui sautent tout le temps, alors que le cœur est dans une profonde tristesse. Donc il y a des signes de l'extérieur, on peut apporter la joie. Donc il y a ce qu'on appelle les signes extérieurs de joie. C'est le niveau de ta décision, c'est-à-dire que commence même déjà à manifester cette expression de ces signes de joie-là. On va passer en revue quelques-uns de ces signes. Ton visage doit afficher un sourire. Et quand on dit afficher, on dit constamment un sourire. Ça veut dire que l'expression, même figée de ton visage, doit être une expression souriante. Ça me fait penser aux émoticônes. Vous voyez, ceux qui utilisent les ordinateurs, on nous met les émoticônes et ça a des expressions, la langue tirée, la personne qui est fâchée, la personne qui est triste, la personne qui rit, la personne qui est machin. Quand nous regardons ça, ce n'est pas écrit « je ris, je pleure », mais nous voyons à l'expression que l'on a donnée à son nez, à ses yeux, à sa bouche, qu'il est en joie, qu'il est en pleurs, qu'il est en tristesse, qu'il est fâché, qu'il est... Voilà. Donc, il y a des signes qui sont visibles. Le premier, c'est afficher un sourire. Afficher un sourire, ça s'apprend, mes frères et mes sœurs. Scientifiquement, ça s'apprend. Techniquement, ça s'apprend. Parce que le sourire, encore plus le rire, fait jouer un certain nombre de muscles sur le visage. Tu dois apprendre à afficher un sourire. Tu dois apprendre à arborer un large sourire dans des circonstances. Quand tu marches en route, tu a appris à afficher un sourire, visage souriant. Il y en a qui ont ce visage naturellement. Et par conséquent, ils ont un visage qui est plaisant. Tout le monde les trouve oh, sympa. Mais d'autres qui n'en ont pas. Et la plupart de nous n'avons pas de visage qui sont souriants. Ça n'a rien à voir avec être beau ou pas beau. Être mignon ou pas mignon, non. C'est vraiment cet état d'harmonie des muscles qui font que ton visage est apaisant d'une certaine façon. Quand tu marches tout simplement, quand tu as cet état de visage souriant, tu marches. Quand tu rencontres quelqu'un, tu peux sourire plus largement, arborer un large sourire. Ça, c'est un lien de communication. Il faut apprendre à rire, à te déployer pour rire, pour te laisser rire. Ça, c'est les expressions du visage, c'est important. Il y a les expressions du port du corps. Il faut apprendre à marcher la tête haute. Quand on est en jouant, on ne marche pas la tête baisse. Si tu as l'habitude de marcher la tête baisse, tu masques cet effet de joie. La tête baisse, c'est la tête de défaite. L'Éternel a dit à Caïn, vous vous souvenez, dans Genèse, lorsqu'il commençait à nourrir en lui des sentiments méchants contre Abel, de jalousie, ça montait, ça commençait à le ranger. L'Éternel lui a dit, Caïn, ne garde pas la tête baisse, lève la tête, parce qu'il est acquis là. Si tu regardes, tu vas le voir et vous allez communier ensemble. Lève la tête, regarde-moi. Marche la tête. Aie l'habitude de lever le visage et marcher en regardant devant toi, autour de toi. Garde la tête haute. C'est une position, c'est une posture qui rentre dans les signes extérieurs de la joie et même du triomphe. Nous avons vu les talents tout à l'heure. Lui ne blague pas avec ces choses. Toujours dans la posture, on dit garde une attitude ouverte. Apprends, mais il y a beaucoup de gens qui aiment, quand ils sont seuls ou quand ils sont tenus en posture courante, ils ont les bras croisés ou derrière le dos. Ce ne sont pas des postures de triomphe, ce ne sont pas des postures qui manifestent une position d'ouverture. Ce sont des choses qui ne sont pas automatiques, c'est des choses qui s'apprennent. Vous savez, il y a tout un... Comment dire? Il y a toute une école de communication pour pouvoir aider les hommes publics, les présidents, etc., à être communicatifs et à communiquer de la joie, à rayonner de la lumière. C'est dans cette étude que j'ai compris vraiment le sens spirituel de cette chose. Ils le font même sans en saisir le sens spirituel, mais seulement, ils ont la science de cela. Et plus tard, vous verrez qu'avoir la science des choses permet d'enrichir les chambres. Donc, si tu es quelqu'un, si tu t'analyses et tu fais le constat que tu as toujours les bras croisés derrière le dos ou les poings fermés, apprends. Dis-toi non, il faut que mes bras aillent ailleurs. Il faut que j'aie des positions en plus d'ouverture. Il faut que mes bras soient libres le long de mon corps. Il faut que je cesse d'être toujours refermé comme ça sur moi-même. Et la posture d'ouverture aussi, c'est l'attitude d'ouverture aussi. C'est apprendre à aller vers les gens. Ne les salue pas de loin. Beaucoup de gens, quand ils arrivent, ou par timidité, ou par... Quand ils voient des personnes attroupées quelque part, même si c'est des personnes qu'ils connaissent, moi, même dans les assemblées, ils tracent à côté, et si on l'a trop vu, ils soulèvent un peu la main, ou elles soulèvent un peu la main, elles saluent comme ça de loin. Non, ça, c'est pas une ouverture. Il faut aussi apprendre. Quand tu arrives et que tu trouves sur une place déjà occupée, va vers les personnes. Va dire bonjour en contact. Ça te donne une autre personnalité. Ça fait que cette personne te voit différemment. Ça fait que tu as un rayonnement aussi sur eux. Parce que tu pousses ton rayonnement jusqu'à leur contact. Ce qu'on appelle les positions d'ouverture. Va vers les gens. Salue-les. Tends la main. Même une bonne poignée de main, ça s'apprend. On apprend à passer une bonne poignée de main. Sans écraser la main du voisin. Sans secouer la main du voisin. On apprend à saluer. On apprend les formules de politesse. Tu connais pas les formules de politesse maintenant? Apprends, cherche. Comme nous lisons même les épîtres. Moi, j'ai pris, un jour, je me suis mise au travail spirituel et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à saluer spirituellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans ma Bible écrite sur l'ordinateur et j'ai collecté comme ça les salutations. Comment Paul saluait, comment Pierre saluait, comment Jésus saluait. Ah oui, j'ai pris comme ça les versets et je me suis fait toute une planche. Les salutations. mes bien-aimés en Christ, les bénédictions qu'il donne sous forme de salutation. C'est important. Qu'est-ce que Jésus disait? Comment il appelait? Tu lis même dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il le faisait? Ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a des livres. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques entières. Cherche la connaissance, mon frère et soeur. Mon frère et ma soeur, cherche la connaissance. Et ça, c'est la connaissance. Même de la science. Dans les livres classiques, il y a des écoles. Internet est là aujourd'hui. Si tu tapes seulement même sur Internet, sur Google, tu dis « formule de politesse », tu vas trouver plein de sites qui vont te donner des listes entières de formules de politesse, qui font partie des structures, des moutures de formation, des écoles de formation. Mon frère cherche la connaissance. Comment saluer, comment faire passer des poignées de main. Tu le sauras. Et puis apprends aussi à t'enquérir des nouvelles des gens. Est-ce que vous allez bien? La famille va bien? Moi, je pense, quand nous côtoyons, quand nous avons côtoyé, moi j'ai vécu dans le nord du Cameroun, et ça m'amusait un peu, enfin on en riait un peu pour se moquer, mais c'est bête aujourd'hui, je m'en rends compte, qu'ils se saluent, quand ils se saluent, c'est interminable. Quand deux personnes se croisent, ils se saluent, oh, comment tu vas, comment va la maison, et ta femme, et ta femme, et ton cheptel, et ton truc. On disait, oh, mais vraiment, ces gens, ils sont pas ou quoi, ce sont pas ces salutations. Mais non! Aujourd'hui, avec la connaissance, je me rends compte, en fait, que c'est ça, qu'on nous instruit. On nous dit, inquiète-toi des nouvelles des gens, intéresse-toi à leur sens. C'est ainsi que la lumière, là, va rayonner dans sa vie. Parce que c'est une transmission, c'est un couloir d'intéressement, c'est un couloir d'amour. Donc, prends les nouvelles des gens qui sont autour de toi. Intéresse-toi à leur situation. C'est ce que l'on appelle le renforcement positif. Quand tu salues même quelqu'un comme ça en appelant par l'agent, il répond aussi machinalement, il t'a salué. Mais quand tu reviens devant, tu dis, mais comment tu vas? Il te regarde encore. Bon, il va dire, ça va, c'est bon. Et si tu poursuis, tu vas voir que cette fois-ci, ça ne sera pas des réponses par réflexe ou automatique. Il va vraiment se tourner, s'intéresser à toi. Et il va prendre une expression différente pour te répondre. Moi, je parle de personnes normales, pas ceux qui vont te dire, de quoi tu te mêles, oh, sinon fiche-moi la peine. Non. Restons dans les canaux normaux. Si quelqu'un te dit, ah, fiche-moi la paix, bon, tu vas lui ficher la paix, mais toi, tu as essayé. Mais tu tomberas beaucoup plus sur des personnes qui ont besoin de ça. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu brises quelque chose. Tu dis, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à moi. Amen. Il faut briser les silences dans les conversations. Voilà, c'est de ça que je parle. Il faut briser les silences dans les conversations. Avec tout, faire allusion au temps qu'il fait, créer une ambiance, une atmosphère positive. Quel que soit le temps, s'il pleut, amène la main de cœur. Ces choses, ça s'apprend, mes frères. C'est tout ça que je vais attirer votre attention. On ne peut pas faire un cours ou un module de formation maintenant, mais retenez ces bruits pour pouvoir orienter votre quête, votre recherche. Il faut apprendre à faire des compliments aux gens. Nous ne le faisons pas assez. Je me suis rendu compte moi-même, je ne faisais pas assez de compliments. Je faisais peut-être des compliments aux gens que je connaissais, qui étaient proches de moi. Mais je ne faisais pas assez de compliments aux gens que je rencontrais. Non. Maintenant, je m'entraîne, mes frères et sœurs. Je m'entraîne même devant mon miroir pour avoir des salutations plus longues. Parce que je m'attarde, parce que je fais des compliments. Parce que je me dis, il faut jeter un regard sur la personne. Il faut vous constater ce qui est nouveau sur lui. S'il a une jolie robe, précise-lui que sa robe est jolie. Ce ne sont pas des flatteries. Ce sont des canaux de communication de joie. C'est ce que nous voulons apprendre. Ce sont des choses qui vont briser les barrières afin que cette joie se répande. Alléluia. Nous sommes en Christ. Donc, ce que nous rencontrons, apprenons à spontanément les bénir. Apprenons les formules de bénédiction qui ne sont pas des formules bêtes, tout simplement. Je ne sais pas, quand je dis bête, bon. Non, ça dit qu'ils ne sont pas des formules plates que nous avons. Non, recherche des choses qui sont dans ta personnalité. Apprends à bénir les personnes que tu rencontres. Que ça ne soit pas dans leur oreille du déjà entendu, déjà vu. Non, que ça retienne leur attention. Sincèrement, apprenez à bénir systématiquement. Même les personnes qui vont dans sa salutation, dans le temps de présence avec eux. Il faut apprendre aussi à faire des grands signes. Il faut toujours dans le sens d'ouverture, il faut apprendre à se réjouir, ne va pas à l'église et puis on est là, on chante, quel que soit le rythme de la chanson, juste ta tête bouge. Il faut te dire, même si tu as une certaine position à respecter, statut à respecter, de temps en temps, il faut pouvoir être dans l'aérance. Il faut avoir des choses qui sont aérées. Amen. Il faut parfois dire au revoir aux gens. Au revoir des grands signes. Ce n'est pas adapté au bonjour, parce que ça met à l'écart. Mais c'est très adapté à le revoir, parce que les au revoir, généralement, se font dans la foule, le mouvement de foule. Amen. Voilà, c'était quelques éléments, quelques signes extérieurs de joie. Je n'insiste pas sur les moments d'ambiance de joie, de danse, voilà, je n'insiste pas sur ça. Parce que ça, c'est l'ambiance. J'insiste sur toi, le corps, ce qui est individuellement à réaliser. Il faut laisser le corps exprimer cela. Et ça s'apprend. C'est comme je disais, de la science. La science, ça s'apprend. La science, ce sont des règles scientifiques, ce sont des notions scientifiques. Si vous allez étudier le sourire, on va vous expliquer comment les zygomatiques rentrent en ligne de compte. On va vous expliquer les hormones que ça déclenche pour voir comme ça. C'est un processus, mes frères et mes soeurs. Vous, votre rôle, c'est de le déclencher par des actes, parce que vous avez pris une décision de faire quelque chose. Alléluia. Ça doit devenir un exercice. Cela demande de l'entraînement, de la discipline, beaucoup de volonté, je vous l'accorde. Mais c'est une étape qui est indispensable à l'installation de la nature joyeuse en vous. Oui, à ce stade, quand on explique des choses comme ça, on se dit, hein, parce qu'en fonction de nos natures, ces attitudes-là, c'est pas évident. C'est pas inné. Il y a des personnes qui sont de nature gaie. Je ne veux même pas dire de nature joyeuse, parce que la joie, ça veut dire de nature gaie. Parce que le gai, c'est le plaisant, le rire. Il y a des gens qui sont de nature gai, de façon déjà innée, ils sont nés avec ça, c'est leur nature. D'autres qui sont de nature colérique, c'est leur nature aussi, etc. Mais moi, je ne parle pas de ça. Les uns et les autres peuvent développer en eux une nature joyeuse. Donc, c'est des terrains qui sont différents. Mais ces choses ne sont pas spontanées, ce n'est pas inné. À ce stade, parfois, même quand on commence ces choses et tout, ça risque même d'être laborieux parfois. Ça risque même d'être surfait. Tu commences à apprendre à sourire là. Tu as un sourire qui est niais. Oui, ça peut passer par là. Ça peut même être traité ou considéré comme de l'hypocrisie, comme du faire semblant. Je vous l'accorde. Mais c'est comme dans tout. Même quand on commence à prendre un score, on est gauche. Mais à force d'entraînement, on devient efficient, ça devient correct, ça devient même parfait. Et nous voyons très bien que même les talents, nous avons parlé du compétiteur, nous avons parlé de cheval de bataille, etc. Ils ont en eux sans doute ce hennissement et cette nature, mais seulement devenir des victorieux, ça s'apprend. On les éduque, on les entraîne pour qu'ils soient des vainqueurs. Pareil, on doit avoir un entraînement, on doit avoir un exercice, une discipline dans ces choses-là. On doit les acquérir en nous. Peu importe mon frère, ma soeur, quand tu veux arriver quelque part, peu importe, l'enfant qui veut marcher là, quand il finit le quatre pattes, il commence à se mettre debout, il se lève, il tremble comme ça, boum, il tombe, pouf, les fesses par terre, tchouf, il pleure, il se lève. Mais il va encore marcher, boum, les gens rient, ils s'en foutent. Mais s'il ne fait pas ça, il ne marchera jamais debout. Il ne marchera jamais debout, mon frère, ma soeur. Si tu as compris que ça demande de l'entraînement, ça demande de la science, ça demande de la discipline, ça demande de l'exercice, si tu veux avoir une nature joyeuse, fais-le. Alléluia. Voilà. C'est à ce stade-là que la notion d'allégresse va prendre tout son sens. Nous avons vu tout à l'heure que la notion d'allégresse, c'était quoi? Un cri de supplication, un cri de proclamation, un cri de louange. Oui. L'allégresse précédant la joie, quand pendant que tu es en train de faire tes exercices, etc., en privé pour t'éduquer, pour acquérir certaines connaissances et certaines sciences, tu mets aussi en place un parcours d'allégresse. Tu rentres maintenant dans la recherche du Saint-Esprit, dans la supplication. Père, regarde l'effort que je fais. Oh Dieu, j'ai appris qu'il faut avoir une attitude ouverte. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à acquérir cela. Tu proclames, tu loues l'Éternel dans sa bonté, dans ce qu'il t'enseigne. Si tu lis le Proverbe 9, tu vois tous les sept piliers de la sagesse. Tu vois l'intelligence, tu vois la science, tu vois la connaissance, tu vois toutes ces choses. Proclame-le pour que ça t'envahisse de sagesse, que ça t'envahisse de science. Alléluia. Dans cette allégresse que vient la force de briser les barrières. L'Éternel dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Dans Proverbe 31, nous dit une chose. On dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen, amen, amen. C'est une réalité. C'est une réalité. L'Éternel nous délivre de cette barrière. L'Esprit de Dieu va agir pour nous délivrer de cette barrière. Mais avant, le cheval doit être équipé. Le cheval doit être équipé pour le jour de la bataille. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un vient après l'autre. C'est-à-dire, à la suite de l'autre. La délivrance de l'Éternel arrive parce que le cheval lui-même a d'abord précédemment été préparé pour la bataille. Puisque pour te délivrer, il faut que tu ailles en bataille. Mais seulement, tu ne t'appuies pas seulement sur le fait que tu as préparé le cheval. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il y a l'allégresse, que la notion de l'allégresse prend sa place. Tu acquiers la science, tu t'entraînes, tu t'équipes, mais tu supplies, oui. Et dans cette supplication, l'Éternel agit pour te délivrer de cette membrane, de cette paroi, de cette barricade qui englobe ta joie, qui emprisonne ta lumière. Alléluia. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. J'aime ce verset, parce que c'est un verset qu'un prophète m'avait donné un jour. Il m'avait donné 3 versets. Il m'a dit, ça va te conduire dans ta vie. Et je vous assure, chaque fois que je repars sur ça, il y a toujours un des 3 versets qui me conduit dans un moment particulier. Aujourd'hui encore, je l'utilise pour étayer. Parce qu'aujourd'hui, je rentre dans ma nature joyeuse. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu va briser cette barrière qui emprisonne ma lumière, qui m'enseigne comment le processus de joie va s'intégrer en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit intervient à ce stade. Parce que oui, c'est lui qui équipe de tout. C'est lui qui change, il transforme. Il arrache, il ruine des racines, ce qui ne convient pas. Et il plante et bâtit ce qui convient. C'est son œuvre. Donc je supplie pour ça. Il faut que nous le désirons vraiment. Que nous l'ayons décidé, oui. Et que nous prions et supplions pour que cela soit fait en nous. Alléluia. Continuons l'enseignement. Comment est-ce que ça procède? Allons dans la part. Comment tout ça se met en place en nous, mes frères et mes sœurs? La parole nous enseigne une chose. La parole nous fait comprendre que la joie, c'est un fruit. Quand nous prenons le verset où Paul aux Éphésiens parle des fruits de l'esprit, des fruits du péché et des fruits de l'esprit, il en cite 9. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la fidélité, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi. Il nous dit, c'est un fruit, c'est le fruit de l'esprit. Mais c'est quoi un fruit? Un fruit, c'est le produit. C'est quelque chose que dans un contexte donné, on produit. Pour obtenir un fruit, 2 choses doivent se mettre en commun. Même sur les arbres, en prenant même la nature pour qu'elle nous enseigne encore. Un fruit vient de la combinaison de l'étamine et du pistil pour pouvoir produire quelque chose, engendrer quelque chose. On te dit que la joie est un fruit. Donc c'est un produit. Le produit, quand on fait, c'est la résultante d'une opération. Même quand on regarde dans les simples opérations mathématiques, les additions ne produisent pas de fruits. Ce n'est pas le fruit. Parce qu'une addition, c'est une augmentation des choses de même nature. Une soustraction aussi, c'est une chose, une diminution des choses de même nature. Mais on commence à parler de produit que dans la multiplication et dans l'œuvre de la division. Parce qu'on peut multiplier 2 choses qui ne sont pas de la même nature. On peut multiplier, ça donne quelque chose. Le fruit, c'est la 3e entité qui découle de l'association, de la fusion de 2 autres entités. C'est important. Nous allons continuer pour mieux comprendre. La joie, c'est un fruit. Le fruit d'un enfantement, c'est le produit d'un enfantement. On dit que la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire que la joie provient du Saint-Esprit associé à quelque chose pour pouvoir l'obtenir. Pour un enfantement, il faut une semence. Il faut une semence et il faut un utérus dans lequel le dépôt doit se faire. Et dans ce cas, en ce qui concerne la joie, le Saint-Esprit est l'ensemenceur. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu porte en lui plein de semences. Il porte la semence de l'amour, il porte la semence de la paix, il porte la semence de la joie et de tous les autres. C'est en lui comme des graines, comme des germes. Et il faut qu'il dépose ça quelque part pour pour que cette semence germe et porte du fruit. La joie, ce n'est pas dans le Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire que la joie n'est pas sous la forme de la joie dans le Saint-Esprit. Il n'en a même pas besoin. Mais il en est le transmetteur de cette semence-là. Et il faut qu'il ensemence notre nature et que ce soit déposé dans un endroit fertile pour favoriser le développement. Il faut un vacuum, il faut un espace, il faut un utérus. C'est comme nous prenons le parallèle par rapport à l'enfant, on parle de l'enfantement, on peut entraîner le parallèle par rapport même à l'accouchement même d'une femme. Il faut une semence qui se dépose dans un utérus, dans un vacuum, dans un incubateur, bien préparé, bien irrigué, bien nourri, de bons nutriments, pour faire en sorte que cette semence puisse germer, croître et être à terme enfantée. C'est le même processus. L'Esprit de Dieu qui est l'enfanteur de la joie, qui porte en lui toute cette semence-là, est comme le semeur de la parabole de notre Seigneur Jésus, qui nous parlait du royaume des cieux, et qui nous disait qu'il est comme un semeur qui sort et qui sème. Il jette les graines. La graine tombe au bord du chemin. La graine tombe sur le roc. La graine tombe dans les ronces. Et tout ça, ce sont des terres non propices à son développement. Il meurt. Que pour qu'il faut qu'un fruit en soit produit, il faut que la semence qui est lancée par le semeur tombe sur une terre fertile. À ce moment-là, il pourra croître. C'est pareil. Le Saint-Esprit qui porte cette semence doit trouver une terre fertile, un vacuum, une utérus riche, capable de favoriser le développement. Cette terre qui est fertile-là, mes frères, mes sœurs, c'est notre cœur bien disposé à être joyeux. Lorsque tu prends la décision de devenir joyeux, tu disposes ton cœur en faveur de cette nature. Lorsque tu passes à la phase d'allégresse, tu supplies le Saint-Esprit en lui disant « Me voici disposé à avoir une nature joyeuse. Viens déposer en moi ta semence. La joie, c'est ton fruit. Je le désire. Viens déposer en moi ta semence. » Maintenant, ton cœur est ainsi disposé. Mais ton cœur peut être disposé, mais il n'est pas encore tout à fait fertile. Qu'est-ce qui va servir d'engrais? Qu'est-ce qui va servir d'engrais à ce cœur pour que, au-delà du désir de porter la semence, doit pouvoir être capable, doit pouvoir être en mesure de nourrir cette semence? Donc, le cœur fertilisé, notre décision, qui va servir d'utérus, donc, à la semence de la joie, va être nourri, enrichi par la décision que nous avons prise. Manifester la joie, oui. Elle va être enrichie aussi tous les jours par la résolution de prier, de supplier et demander au Saint-Esprit de déposer cette graine. Elle va encore être fertilisée par notre volonté et par notre désir d'étudier les signes et les actions à poser pour être joyeuse, pour d'acquérir la science qu'il faut. Elle va être aussi ensemencée par notre sérieux et la discipline que nous mettons à faire cet entraînement-là, à nous exercer, à manifester les signes extérieurs. Toutes ces choses que nous avons vues précédemment vont être des engrais pour ce cœur disposé, pour que la semence du Saint-Esprit puisse croître, grandir, pour que nous avancions vers l'enfantement de la joie. C'est notre incubateur, c'est l'incubateur dans lequel la semence de la joie est libérée par le Saint-Esprit, et qui doit se développer, qui va favoriser en nous que le bébé joie grandisse, se développe en nous. Ainsi, la semence vient donc en nous à ce moment et ça prend racine dans notre cœur. Ça commence à germer, ça grandit, ça se développe tous les jours, bien nourri par tout l'entraînement que nous mettons, par nos prières, par notre louange. Ça nourrit, ça grandit. Et ça subit les transformations. Ça emplit notre cœur. Cet enfant commence à occuper tout l'espace de notre cœur. Nous avons la conviction en nous-mêmes que nous devenons de plus en plus joyeux. l'enfant commence à venir à terme. Et la joie commence à être à l'étroit dans notre cœur, dans l'espace dans lequel il a grandi, commence à être à l'étroit, tu vois, comme cet étalon qu'on a mis dans un enclos. Il commence à être à l'étroit parce que lui veut manifester. Le bébé joie qui s'est développé en nous commence à étouffer quand elle est contenue en dedans de nous. Elle veut sortir. Avant, nous avions le désir d'avoir une nature joyeuse. Ça ne suffit plus. Maintenant, nous voulons manifester. La joie a besoin de s'étaler. Elle a besoin de se répandre. Elle a besoin de renvoyer ce qui est à l'intérieur de nous. Elle est contenue. Elle a besoin de jaillir. Alors, elle va se comporter comme un bébé lors de l'enfantement. Quand un bébé arrive à terre, il cherche à sortir. Il cherche les voies de sortie. Il faut qu'elle paraisse. Il faut qu'elle soit vue. Elle fait comme un bébé. Elle rompt les poches. Oh, elle rompt la poche qui l'enveloppe. Elle renverse cette barrière, elle dégage, comme le bébé fait rompre la poche des os. Quand la poche des os est rompue, on dit où il va sortir. Le bébé va accoucher. C'est le signe que lève-toi, va à l'hôpital. Bientôt, il va être là. C'est pareil. Le bébé joie, qui est un fruit d'enfantement, va être enfanté en toi. Romps cette poche. Oh, nous avons vu précédemment que faire éclater, c'est rompre une barrière. Fait éclater l'allégresse et la joie. Elle déchire cela, sort du cœur, mais elle n'est plus seulement dans ton cœur. Il faut que tout ton être manifeste la joie. Qu'est-ce qui se passe? Elle va rompre cette poche, elle va s'expulser du cœur et elle va commencer à couler dans le corps entièrement. Le cœur est compris là dans le corps. Elle sort du cœur et elle commence à envahir notre être. Parce que la joie, on dit souvent, oui, c'est un fruit de l'esprit. La joie, ce n'est pas une simple émotion. Non. La joie est de la même nature que son Père, le Saint-Esprit. La joie, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une simple émotion, ce n'est pas un sentiment. Elle est de la même nature, c'est un esprit, la joie. Elle est de la même nature que le Saint-Esprit, que son Père, c'est son fruit. Et comme un esprit en nous, il va communiquer sa nature de joie. Il va emprunter les mêmes chemins que ce qu'emprunte l'Esprit de Dieu. Nous avons deux versets qui vont nous permettre d'expliquer quelque chose en particulier. Le psaume 119, verset 105 nous dit, nous connaissons tous ce verset, « Ta parole, ô Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset, nous le connaissons. Nous parlons de la parole de Dieu, qui est la parole de vie. D'accord? Il y a un deuxième verset qui dit ceci, c'est le Proverbe 20, 27. Il dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Ça, c'est la version 8 secondes. Dans la version du Semeur, c'est dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. » Oh, oh. Qui voit la lumière là? C'est une lampe que l'Éternel a donnée. Et qui sonde les profondeurs de l'être. De quel souffle on parle? De quel esprit de l'homme on parle? C'est l'esprit qui donne la vie. Le premier verset, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la parole de vie pour l'éclairage externe, pour l'orientation, pour la direction. C'est pour ça que c'est une lampe à tes pieds, pour voir où tu marches. Par contre, le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme que l'Éternel a donné, c'est ce souffle de vie, le souffle qui, quand la parole de Dieu nous dit dans Genèse, qu'il souffla dans leurs narines, et cette masse informe s'est animée. C'est le souffle qui apporte la vie à notre corps charnel. C'est le souffle de vie, d'animation. Et c'est le souffle qui nous maintient en vie physiquement. Le verset nous dit que c'est une lampe, c'est la lampe de l'Éternel. C'est par ce chemin que l'Éternel sonde les profondeurs de notre entraille. C'est par ce chemin que ce que l'Éternel nous envoie passe pour inonder notre entraille. C'est le processus de ce qui est inné parce que, l'Éternel se sert de ce chemin pour pénétrer les profondeurs de nos entrailles. Il ne se sert pas de notre intelligence, ni de nos pensées, ni même de notre âme. Quand il veut planter quelque chose qui ne dépend pas de nous, il passe par les entrailles, par notre chair qui n'a pas de conscience ni d'intelligence. Il va y déposer ce qu'il veut, parce qu'il sait que par notre propre intelligence, par nos propres pensées, nous n'avons pas accès à nos entrailles, à notre chair. C'est le même chemin quand il dit qu'il nous communique la vie. Quand nous marchons, nous ne pouvons pas, le cœur bat sans que nous le commandons de battre. Les intestins se contractent, nous ne le sentons même pas, nous ne savons même pas qu'ils se contractent. Oh. Parce que c'est une voie, c'est ce que l'on appelle le processus vital. Parce que si c'était laissé pour que notre intelligence puisse atteindre, pour que nos pensées puissent atteindre, pour que notre âme puisse influencer, oh, on serait tellement exposé au diable. Parce que Dieu, lui, peut passer par le chemin qui s'est créé pour lui. L'ennemi ne prend pas ce chemin. Il ne le connaît pas. Il n'en a même pas accès. C'est pour ça que lui, il passe par nos pensées. Il passe par notre intelligence pour nous atteindre. Oh! Et la joie, cet enfant qui est sorti de sa poche, va emprunter les mêmes chemins, comme l'esprit de l'homme. Il va suivre ce chemin parce qu'il va inonder nos entrailles. L'esprit de Dieu va aller le planter dans tout notre être. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il va envahir, pénétrer. Et la joie va se faire chair. J'aime ça. On dit la parole s'est faite chair en Jésus-Christ. La parole doit se faire chair en nous pour que nous nous mouvons dans la vie de Christ. La joie qui est enfantée, qui est le fruit de l'esprit, va dans ce contexte se faire chair en vous, mes frères et mes sœurs. Il en est ainsi pour les 8 fruits. C'est le même processus pour l'amour, le même processus pour la paix, le même processus pour la foi, le même processus pour la bonté, le même processus pour la bénignité. Ce sont des choses qui ne relèvent pas de nos décisions seulement, qui ne relèvent pas seulement de nos volontés. Parce que c'est le fruit de l'esprit, ça son processus, mes frères et mes sœurs. Mais quand l'Éternel t'a permis de voir ça, lorsque tu pries, lorsque tu supplies, tu as une vision claire de ce que tu attends. Tu as une vision claire de ce que tu désires. Vous êtes en communion avec l'esprit. Il dit oui. Tu désires ça. Tu dis oui, je désire que ça se passe en moi comme ça. Ta prière au Père en Jésus-Christ, quand tu demandes cette nature joyeuse, en ayant compris ce qui se passe, devient une prière fervente. Mes frères, mes soeurs. Alléluia. Efficace. Parce que désormais, à l'instant du cœur qui bat tout seul, des intestins qui se contractent, la joie en toi va se manifester sans que tu aies besoin d'y réfléchir, de calculer. Ta nature sera joyeuse et plus rien ni personne ne pourra ravir ce fruit en toi. Tu le possèdes et cela se verra. Même toi-même, tu n'as plus accès parce que nous, avec notre intelligence, nous n'avons pas accès à nos entrailles. Et c'est là que l'Éternel Dieu, par son esprit de puissance, est allé planter ce fruit de façon à ce qu'il se déploie en toi. Sans que tu n'aies à y réfléchir. Tu ne diras plus, je vais être joyeuse dans telle circonstance et pas joyeuse dans telle autre. Tu ne diras plus, oh, je souris à telle et je ne souris pas à telle. Ça se fera comme le cœur qui bat. Oh, à ton insu, tu seras joyeux. Et là, l'instruction de Paul prend tout son sens. Soyez toujours joyeux. Mais oui, ça sera, tu seras joyeux, même sans plus y penser. Oh, mes frères, mes sœurs, ah! Soyez toujours joyeux. Puisse le Saint-Esprit camper ce message dans votre cœur. Que vous en saisissiez le sens et que vous œuvrez dans ce sens pour acquérir cette nature joyeuse. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais mes frères et mes sœurs, si vous rentrez dans ce processus, vous allez acquérir progressivement une nature joyeuse qui est une clé pour le déversement, qui est une clé pour le triomphe, pour la manifestation de l'œuvre de l'Esprit en vous. Alléluia. Oh, pourquoi l'Éternel nous instruit de commencer par nous réjouir? Oh, j'ai compris ça. Il veut nous amener quelque part. Il nous dit, élargissez l'état de votre tente. Allongez vos cordages. Enfermez vos pieux. Mais il vous dit, mais avant tout cela, Réjouissez-vous et faites éclater votre allégresse et votre joie. Ainsi, nous irons loin. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La véritable joie du Seigneur. Elle a établi en nous la fortification surnaturelle nécessaire pour tenir ferme, agir dans la victoire, être triomphateur et être conscient de son triomphe. Alléluia. Car le royaume de Dieu, nous dit Romains 14, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah, j'ai regardé ce verset, j'ai dit, mais il était seulement fatigué pour ne pas continuer la paix, la joie, l'amour, hein, tous les fruits. Ou pourquoi il s'est arrêté sur ces deux fruits, la paix et la joie? J'ai compris quelque chose. Je sais que l'Esprit de Dieu m'avait déjà été sur le fait que dans le déploiement de ces sept esprits, toutes les choses ne rentrent pas en mouvance en même temps. Il y a des moments où on parle d'amour. Dieu nous a dit, oui, sans amour, il n'y a rien. Et il y a un amour là qui doit être, c'est l'état même d'être de nous tous. Mais il y a des moments où, pour atteindre certains buts, c'est l'amour qui doit être déployé de façon pratique. D'autres où c'est la bonté qui doit être déployée. D'autres où c'est la douceur qui doit être faite dans le déploiement de ces esprits. Ça, c'est une chose. Il m'a fait comprendre aussi une autre. Dieu nous dit que son trône, que la base de son trône, c'est la justice et l'équité. Et que lui, il est assis sur un trône de justice. Devant lui, il y a un autel de justice. Donc, ce qui commence avec lui, c'est la justice. C'est un juge. Jésus vient. Quand il finit avec nous, il dit avant de partir, je vais vous donner ma paix et je vais vous laisser ma paix. De façon à ce que, vraiment, c'est quelque chose que je désire que vous ne vous tracassez plus trop pour le mettre en école. Je veux tellement que vous soyez des gens de paix et que cette paix habite en vous, que je vous la donne. C'est pour ça que dans le processus de paix, vous savez, mes frères et sœurs, moi, enfin, je dis toujours, j'ouvre mon cœur, moi, je vous dis ce que, comment moi je vis ma foi et comment moi je vis ces choses. J'ai constaté une chose par rapport à la paix, que véritablement, quand on est dans un état où on manque de paix, il suffit de la demander. Il suffit de dire, la paix que mon Seigneur Jésus m'a laissée, remplis-moi. Je vous assure, c'est presque instantané. Et j'ai compris, dans mes lectures et tout, ça s'est fait conviction en moi que c'est parce que le Seigneur a dit, je vous le laisse. Je vous donne ma paix, je vous le laisse. J'ai tiré ça en moi comme ça, je vous donne ça. Je vous laisse ça. Tu n'auras plus qu'à consommer. Parce que c'est un élément qui est important pour moi. Et je viens retrouver ça ici, le royaume de Dieu. Ce n'est ni le manger ni le boire. Mais la justice, nous avons expliqué. La paix, nous comprenons pourquoi. Et il me dit la joie. Aujourd'hui, je comprends pourquoi la joie est dans ce verset. Aujourd'hui, je comprends pourquoi la joie est dans ce verset. Parce que c'est une clé fondamentale pour posséder le royaume de Dieu. Pour posséder ce que le royaume de Dieu te réserve. C'est une clé fondamentale pour prendre possession de cet héritage. Alléluia. Pour être en capacité d'élargir l'espace de Satan. En capacité de prendre l'héritage du serviteur. Alléluia. Oui. J'ai compris que la manifestation de la joie, c'est le déclencheur du rayonnement divin, de la diffusion de la lumière en nous dans le monde. C'est l'élément fondamental pour que nous manifestions la lumière du monde que nous sommes. Parce que dans le spirituel, Jésus nous a déjà établi lumière du monde, puisqu'il est en nous et que sa lumière est rayonnante. Mais nous ne la manifestons pas toujours. Et que cette joie, cette véritable joie en nous, est le déclencheur qui renvoie la lumière de Christ au travers de nous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Parce que nous avons Christ en nous. J'ai compris ça. J'ai compris que la joie est une clé puissante pour l'équipement divin. Dans ce processus d'élargissement de la tente. Dans ce processus d'expansion, d'occupation. La joie. L'allégresse et la joie sont le moyen, le canal, le support par lequel Dieu veut libérer en nous la capacité, l'onction indispensable à l'accomplissement des instructions qu'il nous donne à chacun de nous pour élargir sa tente, l'espace de sa tente, pour occuper le royaume, pour étendre ses limites, pour envahir les nations, pour reconquérir les territoires occupés. L'allégresse et la joie sont ces moyens-là. Amen, amen, amen. Oh mes frères, mes sœurs. Alléluia. Je vais prier pour clôturer ce message. Mon frère, ma sœur, si tu as compris ce message et que tu le mets en pratique, en application dans ta vie, tu feras sauter le couvercle du calice. Tu feras sauter le couvercle de ton cœur, du calice qui contient ton lot, ton délicieux héritage. Et tu le posséderas, car tu seras rendu capable d'élargir l'espace de ta tente, d'allonger tes cordages, d'affermir tes pieux et d'occuper dans le nom de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, merci Papa pour ta révélation. Merci Saint-Esprit pour ton édification. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous fais de nous rendre capables par ton esprit d'ouvrir le bouchon de notre breuvage au nom de Jésus. Oui, Père éternel, merci pour ce peuple que tu veux élever en cette saison encore. Merci pour ton corps, oh Jésus-Christ, que tu veux amener à une autre dimension. Merci pour tes amis, tes conducteurs que tu as établis dans ton corps. Remplis-les davantage de tes instructions par ton esprit, ô Père. Ô Dieu, visite-les dans tous les domaines de leur vie, leur ministère, leur famille. Suscite en eux le désir de l'équipement, ô Seigneur, afin qu'ils soient en capacité de pouvoir élargir l'espace de leur temps et amener le troupeau qui leur est confié à conquérir, ô Seigneur Dieu Père de Puissance, à occuper les espaces désertés. Merci parce que tu ensemences en nous ta joie et que tu vas aussi nous enseigner à être et à demeurer dans ton allégresse. Merci, ô Papa, car tu me fais triompher de mes situations passées. Tu me fais triompher de ma limitation, triompher de mon improductivité, triompher de mon infécondité, triompher de mon manque de fruits, triompher de ma sécheresse, de mon errance, Papa. Merci. Tu m'établis dans la victoire. Tu changes mes circonstances. Voici venu le moment. Voici venu le temps où tu fais passer les choses anciennes. Oui. Et voilà, tu fais arriver de nouvelles choses dans ma vie. Grâce te soit rendue au Père en Jésus-Christ. Car à compter de ce jour et à toujours, tu me fais entrer avec joie et allégresse dans la conquête. Et tu me positionnes avec triomphe dans ma percée. C'est ma plateforme, Seigneur, d'action avec toi, au nom puissant de Jésus. Ô Père, reçois cette prière, au nom de notre Seigneur Jésus. Que sans cesse ton esprit glorifie. Peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent sur vous. Amen.